Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francis, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Sénégal, les plaidoiries continuent ce mercredi à Dakar au procès pour terrorisme de 29 djihadistes présumés. Les avocats des deux principaux prévenus ont réclamé hier l'acquittement de leurs clients, alors que le parquet a préconisé des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité pour la majorité des accusés. Plus de détails sur ce procès qui avait démarré le 9 avril avec Abdourahmane Dia.
Les accusés, dont trois femmes, sont poursuivis pour terrorisme, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Il leur est reproché d'avoir voulu installer des bases djihadistes dans le sud et dans le sud-est du Sénégal. Pour leur défense, ils sont représentés par une soixantaine d'avocats. Aucun élément à charge n'a été retenu contre Martar Diohané pour qu'il puisse être condamné à perpétuité, a plaidé hier son avocat, maître Alassane Cissé. L'un des avocats de l'imam Alindao a lui aussi plaidé l'acquittement de son client et de l'ensemble des prévenu. Le 14 mai, le procureur Ali Sire Ndiaye avait réclamé les travaux forcés à perpétuité pour Martar Diohané, présenté comme l'idéologue. Le parquet avait aussi requis une peine de 30 ans de travaux forcés pour l'imam Alindao, accusé d'être le coordonnateur du groupe.
Au Mali, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, poursuit sa visite de 2 jours dans le pays. Il est aujourd'hui à Mopti, dans le centre du Mali. Le séjour a commencé à Bamako mardi à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus. Lors d'une cérémonie d'hommage aux casques bleus hier, Antonio Guterres a salué la contribution des soldats de la paix de la MINUSMA, la mission onusienne sur place, qui est la plus périlleuse dans le monde. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, fait le point sur les activités du numéro 1 de l'ONU à Bamako mardi, où il a rencontré le président Ibrahim Boubacar Keïta et le premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga.
Quand la solidarité pousse le secrétaire général des Nations Unies à faire une visite de 48 heures au Mali, le Mali, pays de tradition, ne peut que l'accueillir à bras ouverts. C'est pour cela que le président de la République, Ibeka, était parmi les officiels maliens pour souhaiter la bienvenue à Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
Cette visite est une visite de solidarité, je dirais même de double solidarité. Premièrement, de solidarité avec le peuple malien, en correspondant cette année à la visite que je fais au mois de Ramadan à un pays musulman, visite pendant laquelle je fais le jeûne pour exprimer mon hommage non seulement au peuple malien mais à la Umma musulmane, à l'Umma islamique partout dans le monde.
Vu la situation que connaît le Mali avec la crise sécuritaire, Ibeka trouve que le message du secrétaire général des Nations Unies est adressé à toute la sous-région.
Son message parlait à le Mali, s'adresse à l'ensemble de l'Amérique aujourd'hui, mais singulièrement à toutes nos zones, tous ces pays-là du Sahel, aujourd'hui parce que nous savons par non seulement le terrorisme qui nous vient d'ailleurs, également tout ce trafic dont nous sommes victimes aujourd'hui. Être humain, je veux bien tout cela et je pense que nous n'avons pour M. Guterres, pour Ségola, que des mots de remerciement.
Le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu au camp de la force de la MINUSMA où il a assisté à une cérémonie en hommage au casque bleu décédé. Il a déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial de la MINUSMA.
Aujourd'hui, vous travaillez dans un cadre où la paix n'est pas assurée. Vous travaillez dans un cadre où il y a des groupes terroristes qui ne respectent rien et personne. Vous travaillez dans un cadre où il y a des trafics de drogue, d'êtres humains, armes. Et toutes ces choses sont interliées. Toutes ces choses créent un environnement extrêmement dangereux, non seulement pour les populations civiles, mais aussi pour vous-même.
Le premier ministre malien était de la cérémonie. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des casques bleus. Soumaïlou Boubey Maïga.
Ces activités terroristes ont malheureusement coûté à la MINUSMA, à la force française Barkhane et aux forces maliennes des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Je voudrais ici rendre un hommage particulièrement appuyé aux 172 membres du personnel qui sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays. Je souhaite prompt rétablissement aux 536 blessés au cours des diverses opérations au Mali.
Les maintiens des pertes des Nations Unies opèrent dans un environnement toujours aussi difficile. Selon le patron de l'AMINUSMA, le cas du Mali n'est pas une exception. Mamad Saleh Anadif.
En mars dernier, vous avez lancé une initiative intitulée Action pour le maintien de la paix et qui vise, parmi tant d'autres objectifs, à améliorer les performances et à s'assurer que les opérations de maintien de la paix sont adaptées pour faire face au théâtre des opérations toujours plus complexes, toujours plus dangereuses.
Après cette première étape bamakoise, le secrétaire général des Nations Unies se rend à l'intérieur du pays pour visiter les camps MINUSMA, échanger avec le personnel militaire et civil. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Burkina Faso, les syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement tiennent depuis hier et jusqu'au 1er juin des sit-ins sur leur lieu de travail. Ils réclament le respect par le gouvernement de ses engagements et protestent contre des mesures que les autorités envisagent de prendre. Adama Bayiré, représentant de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances, donne des détails sur les engagements non tenus par l'État burkinabé.
Il y a la question des cotisations syndicales qui est un engagement avec le gouvernement qui constitue à la retenue à la source et des cotisations syndicales et des cotisations pour les mutuelles dont le ministre des Finances a décidé de mettre terme unilatéralement. Ensuite, il y a la question du carburant, du fonctionnement pour les travailleurs. Et le ministre a pris un arrêté pour dire désormais qu'il n'y a plus de carburant pour les sorties sur les terrains. Ensuite, il y a la question également des motivations financières. On a demandé qu'il y ait des statuts sécurisants pour le personnel du ministère. Aujourd'hui, on nous tendait vers une privatisation des finances publiques. Il y a trois mesures fondamentales que le ministre veut faire passer. Un, c'est l'érection de la direction générale des impôts en établissement public d'État, ce qui est contraire véritablement au caractère de souveraineté d'État de l'impôt. Il y a la question, par exemple, des guichets banques qu'elle veut installer au sein des services des impôts, que nous avons estimé qu'il y a des travailleurs qui sont là pour faire le travail. Ensuite, le gouvernement veut également donner le recouvrement des créances fiscales à des privés, alors que nous sommes formés pour ça.
Adama Bayiré, représentant de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances à Ouagadougou. Le Zimbabwe organisera le 30 juillet les élections présidentielles et législatives, premier scrutin depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre dernier. Le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a déterminé que le lundi 30 juillet 2018 serait le jour de l'élection du président, des membres de l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux, a annoncé ce mercredi le journal officiel. L'éventuel second tour de la présidentielle a été fixé au 8 septembre. Emmerson Mnangagwa, ancien proche de Robert Mugabe, l'homme fort du Zimbabwe pendant 37 ans, est candidat du parti de la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980. Au Comores, archipel de l'océan Indien, le colonel Azali Assoumani avait annoncé fin avril la tenue d'un référendum constitutionnel qui pourrait lui permettre de briguer plusieurs mandats présidentiels successifs. Si le non l'emporte, le président termine son mandat en cours. Mais si c'est le oui qui est gagnant, il remettra son mandat en jeu. Plus de détails avec Irénée Herman Ongbo.
Le chef de l'État sortant ne peut pas se représenter pour un deuxième mandat en vertu du principe de la présidence tournante entre les trois îles qui composent l'Union des Comores. Si le oui l'emporte le 29 juillet, des élections présidentielles et législatives anticipées seront organisées en 2019 au lieu de 2021. Le porte-parole de la présidence a justifié la nécessité de modifier la constitution à cause des lourdeurs du système constitutionnel actuel et qui pour lui constitue un frein au développement. Depuis plusieurs mois, l'opposition dénonce des abus du pouvoir du régime Azali. Outre son projet de référendum, il a récemment suspendu la Cour constitutionnelle, assigné à résidence l'un des chefs de l'opposition, son prédécesseur Ahmed Abdallah Sambi, et interdit les manifestations dans l'archipel. Les Comores, petit archipel pauvre de l'océan Indien, ont pendant de nombreuses années connu une forte instabilité politique, caractérisée par des crises séparatistes et des coups d'État.
Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, secoué depuis plusieurs semaines par une contestation, y compris au sein de son propre parti, a défendu son bilan lundi soir en soulignant que la croissance avait dépassé les 2,5% au premier trimestre. Il a admis que dans certains domaines, le gouvernement avait échoué, mentionnant la chute du dinar et réitérant son engagement à réformer les caisses sociales et les entreprises publiques largement déficitaires. La puissante centrale syndicale UGTT réclame le départ de M. Chahed en arguant des difficultés économiques du pays. Et pour terminer, Israël a démenti aujourd'hui La conclusion de cessez-le-feu annoncé par les groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza pour mettre fin à la confrontation la plus sévère entre l'État hébreu et ces derniers depuis 2014. Merci de votre attention.